Ce que Marx reproche alors par Mainston, c'est une déclaration qu'il considère comme hypocrite de sympathie pour les mouvements nationaux en Europe, alors qu'en fait, il laisse faire la contre-révolution menée par la Russie. Je cite, « Quand il trahit des peuples étrangers, ce fut avec une politesse raffinée, cette menue monnaie que le diable offre à ses dupes en échange de leur arme. Si les oppresseurs ont toujours pu compter sur son soutien actif, les opprimés n'ont jamais été privés de l'étalage de sa rhétorique emphatique. » Fin de citation. Et ensuite, le réquisitoire de Marx crible toute la carrière politique de Palmerston, donc évidemment ce rôle dans la question d'Orient depuis les années 1820. Et à chaque fois, il accuse en fait Palmerston d'avoir joué le rôle d'agent de la Russie. Alors, ça vaut quelques phrases. Il a un bon don de pamphlétaire, Marx. Hein. Le vocabulaire russe ignore le mot « honneur ». Quant à l'idée elle-même, on considère qu'elle est une illusion française. C'est presque de l'épigramme. Et après les publications des textes de Kuhar dans les années 1830, « Nul besoin pour lui de gratter le moscovite pour découvrir le tartare. Il avait trouvé le maître tartare dans sa hideuse nudité. » Bon, Marx a tendance à oublier que ce sont les tatars qui sont les victimes des Russes. Mais comme il a tous les prix jugés ratios de son époque, les tartares ou tatars sont évidemment... Alors, un rappel historique pour éclaircir. On dit tatars. Seulement, l'arrivée des Mongols au XIIIe siècle, y compris dans les steppes russes, a provoqué une telle panique en Europe qu'on les assimilait aux gens du Tartare, c'est-à-dire des enfers. Et donc l'expression Tartare est restée jusqu'à aujourd'hui, y compris dans le fameux steak portant ce nom. Alors, c'est dans le New York Daily Tribune, essentiellement, et puis dans quelques publications de la gauche radicale anglaise, que Marx et Engels, je vous dis encore une fois, on ne peut pas départager les auteurs, commentent toute la crise qui conduit à la guerre de Crimée et ensuite la guerre elle-même. Il appelle à une entente franco-britannique pour arrêter l'expansion russe. Le grand danger qui menace le monde, c'est l'expansion de la Russie. Son seul antagoniste est la révolution démocratique. Si la Russie s'empare de la Turquie, sa puissance s'accroîtra de près de moitié et deviendra supérieure à celle du reste de l'Europe. Les intérêts de la démocratie révolutionnaire et de l'Angleterre sont communs. Le maintien de l'Empire ottoman, texte du 12 avril 1853. Si on est ferme avec les Russes, ils s'arrêteront, 9 juin 1853. Et ensuite, on passe à un réquisitoire contre la bourgeoisie et l'aristocratie britannique qui atermoie et ne fait rien devant l'expansion russe, alors que le prolétariat britannique, lui, proteste contre l'impuissance et la déchéance des classes dirigeantes. Au moins les chartistes, c'est-à-dire la gauche britannique, prolétarienne, appelle à la guerre contre la Russie. Alors, quand les troupes russes pénètrent sur le Danube, Marx s'en prend aux puissances occidentales, il utilise le terme pour définir la France et l'Angleterre. Je ne savais pas qu'on utilisait déjà l'expression puissance occidentale dans les années 1850, mais apparemment c'est le cas puisque Marx l'utilise. Qui prodigue au sultan des notes diplomatiques qui sont des projets de négociation. En gros, pour Marx, cesser de perdre de temps avec des fausses négociations, il faut faire la guerre. Résumons en quelques mots la question d'Orient. Irrité et mécontent de voir son immense empire réduit à un seul port d'exportation, situé au reste sur une mer impraticable 6 mois l'an, et indéfendable contre les Anglais pendant les 6 autres, le tsar, poursuivant le dessein de ses ancêtres, cherche à s'ouvrir un accès à la Méditerranée. Il retranche l'une après l'autre les parties les plus distantes du corps de l'Empire ottoman, jusqu'à ce que Constantinople, le cœur, cesse enfin de battre. Ses invasions périodiques, il les reprend chaque fois que ses visées sur la Turquie lui semblent compromises ou par l'apparente consolidation du gouvernement turc, ou bien plus dangereux, par les signes avant-coureurs d'affranchissement parmi les Slavons. Slavons ou Slaves, c'est la même chose chez Marx. Misant sur la lâcheté et la crainte des puissances occidentales, il intimide l'Europe et fait monter à l'extrême ses prétentions pour paraître d'autant plus magnanime après qu'il aura eu la satisfaction d'obtenir ce qu'il a voulu en premier lieu. Il faudrait envoyer ça à certaines personnes qui jugent la politique de Poutine aujourd'hui. Pour leur part, inconscientes, pusillanimes, se méfiant les unes des autres, les puissances occidentales commencent par encourager le sultan à résister au tsar, par crainte des empiétements de la Russie, et finissent par contraindre le premier à céder par peur d'une guerre générale qui pourrait provoquer une révolution générale. Trop velléitaire et trop lâche pour entreprendre le relèvement de l'Empire ottoman par la création d'un empire grec, d'une république fédérée des États slaves, elle ne cherche qu'à maintenir le statu quo, c'est-à-dire cette phase de décomposition qui interdit au sultan de s'émanciper du tsar et aux slaves de s'émanciper du sultan. Le parti révolutionnaire ne peut que se féliciter de cet état des choses. L'humiliation des gouvernements occidentaux réactionnaires et leur manifeste impuissance à sauvegarder les intérêts de la civilisation européenne face aux empiétements russes ne manqueront pas de produire une saine indignation chez les peuples qui pâtissent depuis 1849 de leur assujettissement au joug de la contre-révolution. Donc, vous voyez, un Marx totalement belliciste demandant la guerre à la Russie. Mais il n'a aucune sympathie pour l'Empire ottoman, qui est pour lui un mélange de barbarie orientale et de civilisation occidentale. Mais si les Russes s'emparent de Constantinople, on aura une forme plus terrible et plus conquérante du byzantinisme russe, dit-il le 12 août 1853. Il reconnaît néanmoins aux Ottomans un très grand mérite, ce qui fait d'ailleurs que l'Empire ottoman a le soutien de la gauche européenne dans cette période, c'est que l'Empire ottoman a ouvert ses frontières aux réfugiés politiques magyars et polonais après la révolution de 1848. Et que l'une des exigences de la Russie et de l'Autriche, c'est que l'Empire ottoman livre les réfugiés politiques à la police de ces deux États, ce que l'Empire ottoman refuse. Et donc cette attitude tout à fait courageuse de l'Empire ottoman donne à l'Empire ottoman un très grand soutien à l'époque de la guerre de Crimée dans la gauche européenne. Et il y aura d'ailleurs un paquet de Polonais et de Hongrois qui vont entrer dans l'armée ottomane pour se battre contre les Russes, et un certain nombre d'entre eux se convertiront à l'islam et deviendront des officiers de haut rang dans l'armée ottomane jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce qui est clair, c'est que dans tous les raisonnements que Marx et Engels font sur la question d'Orient, c'est un raisonnement de nature géopolitique et jamais d'économie et de société. On trouve par exemple tout un raisonnement sur le fait que la débute russe est de s'emparer des bouches du Danube pour couper la route commerciale du Danube et ainsi affamer l'Europe. Mais on est dans une vision géopolitique. Politique. On notera, ça c'est pour une pierre pour l'année prochaine, que dans les analyses des débats à la Chambre des communes, Marx salue l'attitude du député Henry Layard, le découvreur de la Syrie, qui est à l'époque député radical aux communes, et qui appelle à la fermeté absolue contre la Russie. Nous reverrons Layard l'année prochaine comme ambassadeur de sa très gracieuse majesté entre 1878 et 1880 à Constantinople. Par contre, il tape sur Cobden, le grand doctrinaire du libre-échange, qui, je cite, « a toutes les contradictions de l'idéologue et toute la couardise calculatrice du boutiquier ». En effet, Cobden affirme que l'islam ne peut être maintenu en Europe et le commerce avec la Russie est bien plus important que celui avec la Turquie. Ça, c'est le raisonnement de Cobden. Quand la guerre s'enclenche à l'automne 1853, Marx peut se permettre des phrases de ce genre. Les armées des deux religions qui ont longtemps combattu pour la suprématie de l'Orient, la russo-grecque et la mahométane, maintenant s'affrontent, l'une appelée par la volonté arbitraire d'un seul homme, l'autre par la force fatale des circonstances, suivant leurs croyances mutuelles, puisque l'Église russo-grecque rejette le dogme de la prédestination, pendant que le mahométisme est centré sur le fatalisme. C'est octobre 1850. On a du mal sur les dates des textes, parce que la plupart du temps, on n'a pas les dates de composition, mais des dates de publication. Or, il fallait quand même que les textes arrivent par bateau à New York. Donc, il y a des décalages d'une semaine, 10, 15 jours, entre leur rédaction et leur publication. Bon, Marx essayait de rendre sa copie avant le départ du prochain bateau pour New York. Quand on passe aux opérations militaires, Marx, c'est-à-dire c'est probablement dans le cas précis Engels, explique en fait qu'il s'agit d'une guerre sainte des deux côtés. Et puis quand la guerre européenne devient inévitable, quand les flottes franco-britanniques entrent en mer Noire en février 1854, Marx spécule sur la possibilité d'un conflit étendu à l'ensemble de l'Europe, comme en 1792, mais conclut que la probabilité va plus à des opérations limitées à la Baltique et à la mer Noire. Mais il ne peut s'empêcher de souhaiter fortement que cette guerre donne le signal à la reprise de la Révolution en Europe. Alors, il y a toute une analyse de la France de Napoléon III qui est faite au passage et qui est complémentaire du texte célèbre « Le 18 Brumaire » de Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon III a besoin du soutien de l'Église catholique, parce que l'Église catholique contrôle les paysans. Or, c'est les paysans qui sont la base sociale du régime de Napoléon III. Donc, c'est pour ça que Napoléon III défend la lutte contre les orthodoxes au nom des intérêts catholiques. Enfin, il ne dit jamais Napoléon III parce qu'il le déteste. Il le dit Bonaparte, en général, dans les textes. Plus intéressant pour nous, c'est un des rares passages où Marx aborde la question de l'islam. Le Coran et la législation musulmane qui en émane réduit la géographie et l'ethnographie des peuples à la simple et commode distinction de deux nations et de deux pays, celui des croyants et celui des infidèles. L'infidèle est rarbé, c'est-à-dire ennemi que l'on doit combattre s'il refuse de se soumettre. Il en résulte que les chrétiens orientaux ont dû se soumettre, ce qui les a mis sous l'autorité du patriarche, responsable devant la porte du comportement de ses coreligionnaires. Il s'ensuit que la théocratie musulmane engendre la théocratie chrétienne, et si on émancipe les chrétiens de la domination musulmane, on les émancipe aussi de la domination du clergé. Si vous voulez remplacer le Coran par un code civil, en français dans le texte pour code civil, vous devez occidentaliser la structure entière de la société byzantine. Ça, c'est un texte de mars 1854. Mais en fait, il fait évidemment un long exposé sur la question de Jérusalem et des lieux saints, pour montrer que les querelles des lieux saints sont en fait des querelles nationales et pas des querelles religieuse. Ensuite, on passe aux opérations militaires. Et ça, c'est Engels qui écrit certainement. En gros, les militaires de tous les belligérants se comportent de façon stupide. Ils sont indignes de l'histoire militaire de leur propre pays. Tout démontre combien l'Europe est pourrie. Même la guerre ne lui permet pas de manifester de l'énergie et de l'honneur. Même la Russie, la moins affectée par une civilisation amollissante, n'accomplit rien de ce genre. À ce rythme-là, la guerre pourrait durer 30 ans sans arriver à la moindre conclusion. L'armée française, devenue la garde prétorienne de la bourgeoisie puis de Bonaparte, a perdu toutes ses qualités combattantes. Et d'ailleurs, les héros français qui ont fait la conquête de l'Algérie se rendent compte de cela et menacent de se révolter, à moins que l'on ne chasse les chefs incompétents nommés par Bonaparte et qu'on rétablisse les vrais chefs de guerre qui ont fait la conquête de l'Algérie, dit Marx Engels, ici probablement Engels. En fait, si on lit ces textes, on a l'impression que le général Engels voudrait prendre la direction de toutes les armées du conflit pour faire la vraie guerre telle qu'elle doit avoir lieu. Ensuite, Marx livre un développement sur l'histoire de la laïcisation de l'Europe pour expliquer, parce que l'Europe est devenue laïque, elle peut prendre la défense d'un État musulman. 24 octobre 1854. En fait, depuis le XVIIe siècle, les classes dirigeantes des États européens se sont progressivement détachées de la religion, ce qu'on a appelé la philosophie au XVIIIe siècle. Cela s'est étendu aux classes populaires avec la Révolution française. C'est seulement devant la menace révolutionnaire que les classes dirigeantes se sont rapprochées des religieux. C'est pourquoi personne ne s'est opposé à l'alliance du protestantisme et du catholicisme avec le croissant turc contre la menace chrétienne orthodoxe. Ensuite, on revient aux opérations militaires, ça c'est Engels, qui tape sur l'incompétence totale du haut commandement britannique. Bon, c'est vrai, hein, honnêtement, vous savez que le grand fait d'armes de la charge de la brigade légère était probablement une des plus grandes stupidités militaires de l'histoire du XIXe siècle, soit de l'histoire militaire en général. Mais ça ne vous dit plus rien, la charge de la brigade légère, quand les Anglais ont chargé des batteries d'artillerie russes, ils se sont fait tout simplement massacrer. Alors, il y aura des choses plus intéressantes sur l'art de la guerre, parce qu'en fait, Engels analyse à juste titre le fait que les militaires n'ont pas la compétence pour gérer le matériel moderne que l'industrialisation leur a produit. Ils sont restés aux guerres napoléoniennes, alors que maintenant, ils ont des canons plus puissants, des bateaux de guerre, etc. L'art de la guerre régresse à faire à mesure que la technologie militaire progresse. Ce n'est pas idiot pour l'analyse de la guerre de Crimée. Alors, après la mort du tsar Nicolas Ier, Marx s'inquiète du risque de voir son successeur Alexandre II se proclamer tsar de tous les Slaves, 5 mai 1855. Cela démontrerait les vrais enjeux de la guerre. Qui va commander en Europe? La race slave unifiée par les Russes a déclaré la guerre aux races romano-celtiques et germaniques. Romano-celtiques, c'est ce qu'on appellerait à la fin du XIXe siècle les races latines. Le panslavisme a cessé d'être une croyance pour devenir un programme politique, ou plutôt une vaste menace politique, avec 800 000 baïonnettes pour l'exécuter. Les Slaves d'Autriche vont se rallier au panslavisme. Ensuite, Marx analyse la renaissance de nationalité slave, en expliquant pendant qu'en Allemagne, les philosophies élaboraient le prétexte qui assurait la protection des doctrines les plus révolutionnaires en politique ou en théologie. En Autriche, sous le nez même de Metternich, la science historique et théologique était utilisée par les panslavistes comme un manteau dissimulant l'enseignement de l'unité slave afin de créer un parti politique dont le but est de renverser l'Autriche et de constituer un vaste empire slave à sa place. Mais ce mouvement n'a touché que les élites et ne concerne pas les masses populaires slaves de l'empire. C'est le compte en face. Seul motif de réconfort pour Marx à ce moment. D'où le fait que la prise de Sébastopol, une œuvre de septembre 1855, est saluée par Marx comme un tournant essentiel qui éloigne la menace slave de l'Europe. Alors, il attribue, ça quand même, il faut nous le dire, la prise de Constantinople à la bravoure du soldat français. La prise de Malakoff, etc., le Redan, il y a la topographie parisienne qui vous rappelle cette guerre. Alors, plus inquiétant aussi, mais en tout cas extrêmement révélateur du milieu du XIXe siècle, c'est l'article que Marx consacre le 4 janvier 1856 au financement de la guerre par la haute banque dominée par les Juifs, ce qui nous donne un mariage inattendu du couplet antisémite et anti-jésuite. Ainsi, nous trouvons que chaque tyran est soutenu par un juif comme chaque pape par un jésuite. En vérité, l'appétit insatiable des oppresseurs serait sans espoir et la faisabilité de la guerre hors de question s'il n'y avait pas une armée de jésuites pour étouffer la pensée et une poignée de juifs pour fouiller dans les poches. Il va même plus loin, puisqu'il ose dire « Il y a 855 ans, le Christ a chassé les prêteurs d'argent du Temple, et ceux d'aujourd'hui qui sont du côté de la tyrannie sont pour la plupart des Juifs. Cela ne peut être une coïncidence. Les Juifs font à une plus grande et plus odieuse échelle ce que d'autres font à une plus petite échelle, mais parce que les Juifs sont si forts qu'il est temps, de temps et opportun, d'exposer et de stigmatiser leur organisation. » Alors là, pour tous les thuriféraires de Marx qui ont toujours protesté que Marx n'était pas antisémite, il semble ignorer cet article sur le rôle de la puissance financière juive dans le financement des guerres de la réaction. Ensuite, il se désintéresse du reste de la question d'Orient. Ils ne font que quelques articles d'Engels d'aspect rétrospectif sur les événements de 1855. Et puis, il revient brièvement en 1857 sur le sujet à propos de l'union des principautés de Moldavie et de Valachie destinée à constituer la Roumanie qui devrait rester sous souveraineté ottomane. Dans ce dossier, la France de Napoléon III s'est séparée de la Grande-Bretagne pour chercher l'appui de la Russie. Marx accuse Napoléon III de mener une politique théâtrale afin de dissimuler ses difficultés intérieures. Pour le reste, l'article porte sur la géopolitique européenne. Et puis ensuite, pour l'Orient, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les articles de Marx sont consacrés à la révolte des Sipayes en Inde, 1857. Alors, notons quand même par rapport à l'Asie que dans la même période, s'il tape sur les Indiens qui n'ont pas d'histoire, Marx salue le mouvement populaire de Taïping en Chine en se demandant s'il n'y a pas une possibilité que la révolution européenne coïncide avec une révolution chinoise. C'est un peu inattendu dans la grille. Mais il faut être honnête, c'est présent dans les textes. Alors, ce qu'on peut dire de tous ces articles sur la question d'Orient, c'est qu'ils sont peu marxistes. Certes, on voit régulièrement se poindre l'espérance d'une révolution provoquée par une guerre européenne, mais on ne trouve pas d'explication socio-économique du conflit. L'obsession de Marx, c'est l'expansionnisme russe et le panslavisme, expression de la réaction et de la contre-révolution, ce qui l'a conduit à accuser la bourgeoisie et l'oligarchie britannique de complaisance et de lâcheté devant l'ours russe. Napoléon III est comme toujours la cible de ses sarcasmes, mais au moins il y a dans ses textes une esquisse d'analyse sociale du régime bonapartiste. Pour le reste, les auteurs maintiennent leur position doctrinale que l'Orient n'a pas d'histoire et n'aura pas d'histoire tant qu'il n'y aura pas de propriété privée et que celle-ci sera introduite par le colonialisme européen. Ils se placent complètement dans le discours de la civilisation européenne triomphante, avec le seul correctif qu'une fois le rôle historique de la bourgeoisie terminé, le prolétariat prendra sa place et fera régner la justice dans l'ordre international. On a donc une vision géopolitique qui s'exprime en termes de puissance et quelques notions sur les progrès de la technologie, en particulier dans le domaine militaire. Ce qui est vraiment frappant dans tous ces textes, c'est l'obsession antislave des deux Allemands exilés en Angleterre et l'expression probablement propre à Marx d'une certaine forme d'antisémitisme. C'est là un témoignage d'autant plus précieux qu'il est inattendu sur la progression des idées raciales dans la pensée européenne du milieu du XIXe siècle. Alors, dans tout ça, on peut rajouter un point historique pour être clair. On parle d'antijudaïsme par hostilité à la religion juive, et l'antijudaïsme est le produit aussi bien du christianisme, de l'islam, beaucoup plus d'ailleurs du christianisme, que de l'islam. Mais dans l'antijudaïsme, vous avez la possibilité de changer de religion. Un juif converti, c'est d'être un juif, en tout cas en théorie, pour les chrétiens et les musulmans. Alors certes, l'anti-judaïsme produit des discours connexes, comme l'identification aux puissances d'argent, comme on le trouve dans le texte de Marx. Encore une fois, la question de la conversion peut permettre en théorie de résoudre, même si c'est plus compliqué, comme le montre le cas espagnol du XVIe, XVIIe siècle. Ce qu'on va appeler l'antisémitisme, qui va apparaître en Europe à la fin des années 1870, va reprendre évidemment toute une partie de l'ancien antijudaïsme, mais va considérer les Juifs non plus comme un groupe religieux, mais comme un groupe racial, ou en tout cas comme un groupe exogène. En Allemagne, ce sera interprété en façon raciale, en France, par rapport à l'histoire de France, chez Barès ou chez Maurras, les Juifs ne font pas partie de l'histoire de France, ce sont des corps étrangers. Et donc, si vous les définissez comme étrangers, il n'y a plus de question de conversion, contrairement à l'antijudaïsme. Alors, évidemment, quand on fait la distinction entre antijudaïsme et antisémitisme, c'est des distinctions d'ordre de raison, de conceptualisation des phénomènes, parce que dans le réel, vous avez les mélanges des deux et non pas des unités pures de l'un et de l'autre. Et l'autre point qu'il faut retenir, c'est que l'antijudaïsme ou l'antisémitisme, là c'est anachronique puisqu'il faut attendre 20 ans pour qu'il apparaisse au milieu des années 1850, c'est des faits d'opinion privée, d'individus. Vous ferez des textes qui sont très violents. Par exemple, si vous ouvrez le journal des Goncourt, c'est bourré de notations de ce genre, mais ce sont des opinions d'individus. Ce n'est pas un mouvement collectif. En revanche, à partir de la fin des années 1870, l'antisémitisme cesse d'être des opinions privées ou d'actions d'individus pour être des mouvements collectifs. Donc il faut faire la césure à la fin des années 1870. Mais en tout cas, là, vous avez un texte qui nous rappelle combien l'antijudaïsme financier était inscrit dans la gauche européenne révolutionnaire du XIXe siècle, y compris chez les plus grands socialistes. Et d'ailleurs, les historiens ont montré combien le tournant en France a été pris grâce à Jaurès lors de l'affaire Dreyfus, qui a rejeté l'antisémitisme de la gauche française. Mais ce n'était pas prévu au départ. Donc revenons à nos moutons orientaux, même si on ne nous a pas été éloignés, puisque c'était quand même un témoignage très intéressant sur l'Europe et sur le fait que ces textes de Marx n'ont eu qu'une influence parce que visiblement la grande exégèse marxiste ne les a pas appréciés. Donc on les a mis dans le coin et on n'a pas beaucoup référencié en dehors de la question du mode de production asiatique. Parce que, évidemment, traiter les Russes et les Slaves d'affreux et de contre-révolutionnaires, ça la faisait mal dans la Russie de Staline. Ça posait quelques problèmes aux exégètes de Moscou. Nous signons au passage que le premier éditeur des œuvres complètes de Marx à Moscou a été fusillé ou envoyé au goulag par Staline dans le cadre des Grandes Purges. Mais ce n'est pas à cause de ce sujet, mais c'est un point d'ordre général. La question intéressante maintenant est l'application de l'édit de 1856. L'émancipation a mis fin à un ordre social plus que millénaire, même s'il a été profondément ébranlé depuis la révolte grecque de 1821. L'islam apparaît partout en danger à la fin de ces années 1850. La Russie, certes, a été battue en Crimée et a renoncé provisoirement à ses ambitions ottomanes, mais a reconcentré ses efforts sur la conquête du Caucase, d'où affluent les masses de réfugiés dans l'Empire ottoman, et on l'a vu qu'une partie de ces réfugiés sont d'ailleurs réinstallés dans les provinces arabes, en tout cas dans la Syrie. Pour les musulmans de l'Empire russe, l'Empire ottoman apparaît comme le refuge par rapport à l'oppression chrétienne. Et la migration forcée renforce le sentiment de solidarité entre les musulmans ottomans et les autres. C'est la même chose pour les musulmans algériens qui fuient la colonisation française et qui se réfugient dans l'Empire ottoman, et les autorités ottomanes les réinstallent dans la région de Damas et dans la Galilée sous l'autorité directe ou indirecte de l'émir Abdelkader, qui a été libéré par Napoléon III et qui s'est installé à Damas avec une très large pension payée. Enfin, colossal, hein, 1 million de francs d'époque, c'est colossal, pardon, payé par le gouvernement français. L'Empire ottoman, comme je l'ai dit, est aussi le lieu de refuge des révolutionnaires hongrois, polonais et autres. Et on voit aussi des cadres d'origine chrétienne, mais convertis à l'islam dans ce système. Une fois rejeté des Balkans, ayant pris le contrôle définitif du Caucase, les Russes réorientent ensuite leur conquête vers l'Asie centrale musulmane. En Algérie, la conquête française est à peu près achevée dans les années 1850 et les Européens imposent des réformes analogues à l'édit 1856 au Maroc ou en Tunisie. Seulement, les seuls non-musulmans qu'il y a au Maroc et en Tunisie, ce sont les Juifs, puisqu'il n'y a pas de chrétiens. Et donc, il y a une demi-émancipation des Juifs tunisiens et marocains sous pression européenne. C'est-à-dire, pression européenne, ça veut dire envoi de navires de guerre, hein, si on ne décide pas un édit d'émancipation. C'est ce qu'on appelle la politique de la canonnière. La révolte des Sipayes en 1857 en Inde a mis fin à la fiction juridique de la continuation du sultanat de Delhi et conduit au rattachement direct de l'Inde à la couronne britannique. La participation des musulmans indiens à la révolte avait d'ailleurs conduit les Britanniques à demander au sultan Abdelmejid de faire une proclamation demandant à ces musulmans de cesser le combat. Il avait bien volontiers accepté, ce qui lui avait valu les remerciements de Londres, qui avait ainsi reconnu une autorité religieuse au calife ottoman sur les musulmans indiens. Outre l'agression extérieure, les milieux musulmans conservateurs ont le sentiment que leur société est attaquée de l'intérieur par les réformes autoritaires des Tanzimates. En même temps, en dépit des efforts constants de centralisation, l'autorité du pouvoir central a du mal à se faire respecter dans les provinces les plus lointaines par manque de moyens financiers et militaires. Dans l'administration provinciale elle-même, nombreux sont les responsables hostiles aux réformes, ce qui a d'ailleurs conduit à leur éloignement de la capitale, ce qui pose encore plus de problèmes dans les provinces. Puisque si on chasse les plus réacs de la capitale en les nommant dans les provinces, ils vont mener une action réactionnaire dans les provinces. Dans les provinces syriennes, le ressentiment est particulièrement fort dans les populations musulmanes. L'évolution économique va dans le sens du déclin de l'artisanat du fait de la concurrence des produits manufacturés européens que les capitulations laissent entrer avec des droits de douane faibles, rappelle 8%. Certes, les grandes familles de notables bénéficient de la grande propriété et de la remise en culture des terres de l'intérieur. Mais cela n'influe pas sur la détérioration des conditions de vie des masses urbaines. En même temps, les chrétiens sont en pleine ascension sociale du fait de l'ampleur des investissements éducatifs. Certaines familles chrétiennes sont en étroite association avec les consulats européens, bénéficiant ainsi des protections consulaires et surtout des fonctions de droguement. Et ils se comportent de façon méprisante envers les musulmans. En 1850, l'entrée triomphale du patriarche grec catholique à Alep a provoqué une émeute antichrétienne qui a fait plusieurs dizaines de victimes, mais les autorités arrivent rapidement à reprendre le contrôle de la situation. En 1858, la tension confessionnelle est partout présente dans l'Empire. En Crète, la cause du rattachement à la Grèce prend à la fois des dimensions ethniques et confessionnelles, ce qui force le pouvoir ottoman à accorder des concessions en matière religieuse, administrative et fiscale. C'est ça le problème compliqué de la Grèce, de la Crète, qui va être un gros dossier jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, pratiquement. Parce que, bon, en gros, les deux tiers de la population de la Crète sont orthodoxes et un tiers des musulmans, mais ils sont tous hellénophones. Parce que, essentiellement, les musulmans crétois sont des chrétiens convertis qui ont conservé la langue crète. Le mouvement national grec va prendre une dimension totalement identifiée à l'orthodoxie et donc rejeter ceux qui sont hellénophones mais pas orthodoxes. Ce qui va amener les Crétois hellénophones à devenir progressivement des Turcs. Et on a ainsi cette machine infernale qui va faire dans tous les Balkans, puis ensuite en Anatolie, le passage de la communauté confessionnelle à la communauté ethnique. Vous n'aurez pas de nationalité en gestation dans l'Empire ottoman qui ne prend pas une définition religieuse, avec deux exceptions, qui sont les deux dernières, avec les Turcs à prendre une identité nationale, mais ce sont vraiment les derniers du Balkan, ce sont les Albanais et les Arabes qui vont développer un nationalisme mélangeant chrétiens et musulmans. Mais en dehors de cela, l'ethnogénèse balkanique et anatolienne se fait d'abord sur une base religieuse et le groupe religieux, le millet, devient progressivement une nation. Et c'est ça, cette machine infernale qui s'enclenche et qu'on voit déjà dans le cas crétois en 1860. Des conseils locaux ont donc été établis en Crète pour essayer de faire des parités de pouvoir entre musulmans et chrétiens. À Djeddah, c'est là la carte, la photo, enfin la gravure ici que vous avez, dans le Hedjaz, en mer Rouge, Une émeute populaire contre les chrétiens au service des Européens n'épargne pas les consuls de France et de Grande-Bretagne qui sont tués. Il semble que ce mouvement soit dû à la protestation de commerçants musulmans contre leurs homologues chrétiens qui disposent de la protection consulaire et des capitulations. Alors évidemment, dans cette représentation populaire française, enfin européenne en tout cas, du massacre de Jeddah, vous noterez l'aspect sexuel qu'on a là toujours dans ce genre de description, puisque la brave européenne risque de connaître un fort mauvais sort de la part de ses agresseurs musulmans. En représailles, un détachement naval franco-britannique bombardera la ville, puisqu'à l'époque on pratique la diplomatie de la canonnière, y compris du bombardement. Puis de dures sanctions seront appliquées à la suite d'une enquête internationale. C'est dans ce contexte très tendu que se produit une interprétation inattendue de l'édit de 1856 fait au Mont Liban. C'est à partir de 1845 qu'on commence à utiliser le terme administratif de Mont Liban à la place de montagne des Druzes dans la nomenclature administrative ottomane. L'égalité ne concerne pas seulement les relations entre musulmans et non-musulmans, mais porte aussi dans le domaine social. Dans le district essentiellement chrétien de Kesrouan, en 1858, les paysans se révoltent et rejettent l'autorité des notables traditionnels, les chers de la famille Razen, qu'ils chassent de la région. Le mouvement a bien une double dimension, populaire et chrétienne. C'est un mouvement social de paysans qui chasse les anciens féodaux, entre guillemets pour féodaux évidemment, de la région. C'est un peuple maronite qui se soulève contre ses maîtres maronites. Mais comme l'affaire prend de l'extension, et c'est ça le danger, les paysans maronites des districts mixtes se soulèvent à leur tour contre leurs chers. Mais cette fois-ci, les chers ne sont plus maronites, mais druzes. En 1859, les violences se multiplient entre druzes et maronites, entraînant le cycle infernal de représailles et de contre-représailles. Et là, on a réellement, et on voit l'enchaînement logique, un mouvement social se transforme en violence confessionnelle du fait du statut de la propriété dans la montagne libanaise. En mai 1860, on passe à la guerre ouverte que les autorités ottomanes et les consuls européens n'arrivent pas à endiguer. Les chrétiens ont rapidement le dessous et les massacres se multiplient, faisant plusieurs milliers de victimes. Les chrétiens se réfugient en masse sur le littoral, en particulier à Beyrouth, qui a échappé aux violences. L'affaire remet en cause l'application de l'édit de 1856, puisque l'édit de 1856 des traités de Paris n'avait pas envisagé cette situation. La première réaction ottomane est de désigner l'énergique ministre des Affaires étrangères, Fouad Pacha, afin de rétablir l'ordre dans la montagne. Dès la fin juin 1860, le gouvernement français s'est lancé dans une vigoureuse action diplomatique exigeant une intervention européenne, au minimum sous la forme d'une commission internationale d'enquête. On envisage même une intervention militaire, mais on y renonce provisoirement du fait de l'hostilité de la Grande-Bretagne à une telle entreprise. C'est alors qu'au début de juillet 1860, une terrible explosion de violence secoue Damas. Plusieurs milliers de chrétiens sont massacrés par la foule musulmane sunnite dans le quartier chrétien de Bab Touma. Alors donc, vous voyez bien, dans la montagne maronite, c'était un affrontement druze maronite, dans la montagne libanaise, pour être plus précis. Tandis que là, c'est sunnite contre grec orthodoxe. On attribue en général le mouvement aux artisans de la ville qui sont en voie de prolétarisation du fait de la concurrence européenne, et on vise les Européens à la fois du fait de leur émancipation et de leur relation avec les Européens et aux circuits commerciaux européens. Ainsi, les Juifs sont totalement épargnés par les violences de juillet 1860. Dans la plus grande partie de la ville, les notables musulmans sont incapables de contrôler la foule, tandis que les consuls européens sont impuissants, étant eux-mêmes menacés. Néanmoins, l'action la plus spectaculaire est celle de l'émir Abdelkader, qui dispose de plusieurs centaines d'Algériens armés et qui protège les chrétiens des émeutiers. Les événements ont un immense retentissement en Europe, tandis que l'émir est dépeint partout comme un héros chevaleresque. Pour faire une caricature, ce serait « Je suis Abdelkader » partout en Europe. La réalité est plus complexe. L'émir considère qu'il n'a fait que son devoir en protégeant les chrétiens, puisque la loi islamique l'impose, mais ces derniers ont tort de vouloir s'en affranchir en demandant l'émancipation. Alors voici un des grands tableaux représentant Abdelkader à Damas prenant la défense des chrétiens. Voilà la chrétienne qui montre son enfant à l'émir. Tout ça dans un disque, dans un décor évidemment très orientaliste, et au fond le massacre qui se poursuit. Alors cette fois, la France peut obtenir un accord des principales puissances européennes pour pouvoir intervenir. Une convention est conclue le 3 août 1860 entre l'Empire ottoman et les puissances qui encadre l'intervention définie pour la première fois comme européenne. C'est pour la première fois que le terme « Europe » est utilisé dans ce sens. Je cite, article 1er, « Un corps de troupes européennes qui pourrait être porté à 12 000 hommes sera dirigé en Syrie pour contribuer au rétablissement de la tranquillité. » C'est la première fois qu'on parle de troupes européennes dans un document officiel. Article 2, Sa Majesté l'Empereur des Français consent à fournir immédiatement la moitié du corps des troupes s'il devenait nécessaire d'élever son effectif au chiffre stipulé dans l'article précédent. Les hautes puissances s'entendraient. Hein, le commandement en chef de l'expédition entrera à son arrivée en communication avec le commissaire extraordinaire de la porte, c'est-à-dire Fouad Pacha, afin de combiner toutes les mesures. Et la durée de l'expédition est prévue pour 6 mois. Dans le document européen. Sans le nom, parce que le nom n'existait pas encore, c'est tout simplement la première application de ce que nous appellerions aujourd'hui le droit d'ingérence. Si on vous trouve bien dans la proclamation de Napoléon III au corps expéditionnaire le 7 août 1860. Soldats, vous partez pour la Syrie et la France salue avec bonheur une expédition qui n'a qu'un but, celui de faire triompher les droits de la justice et de l'humanité. Vous n'allez pas en effet faire la guerre à une puissance quelconque, mais vous allez aider le sultan à faire entrer dans l'obéissance des sujets aveuglés par un fanatisme d'un autre siècle. Sur cette terre lointaine, riche en grands souvenirs, vous ferez votre devoir et vous montrerez les dignes enfants de ces héros qui ont porté glorieusement dans ce pays la bannière du Christ. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, vous les descendants des croisés, vous portez secours au sultan ottoman contre les musulmans, mais vous notez le terme humanité, donc humanitaire, qui est présent. Alors, à côté de l'intervention militaire, une commission internationale va être aussi formée pour trouver une solution politique à la crise. Donc, la course de vitesse entre Français et Ottomans, ces derniers sont partis les plus tôt par mer, comme les autres. Les troupes ottomanes débarquent à Beyrouth dès la mi-juillet et marchent immédiatement sur Damas. Il s'agit de supprimer tout prétexte d'ingérence européenne et en même temps de profiter de la situation pour rétablir définitivement l'autorité du pouvoir central. Donc, Fouad Pacha procède à l'installation d'un tribunal extraordinaire qui ordonne plusieurs centaines d'arrestations, des émeutiers bien sûr, mais aussi des notables et des fonctionnaires de l'administration ottomane. Des secours matériels sont portés aux populations chrétiennes. Quand l'armée française arrive à son tour à Beyrouth, à la mi-août, elle n'a plus aucune justification pour aller à Damas, puisque l'ordre règne à Damas. Accueillis en protecteurs et amis par les chrétiens, les Français sont vus comme des ennemis par les musulmans. La répression, là c'est Fouad Pacha, de Fouad Pacha frappe le milieu des notables damascènes, coupables soit d'avoir favorisé les troubles, soit de ne pas avoir réussi à les empêcher. Au-delà, c'est toute leur attitude précédente qui est condamnée. Ils ont appuyé les réformes quand elles favorisaient leurs intérêts matériels, mais s'y sont opposés quand elles appliquaient l'émancipation des chrétiens. Il faut leur faire comprendre qui est le maître. Outre les nombreuses exécutions, il y a des mesures de bannissement. Mais les biens des condamnés ne sont pas confisqués, ce qui permettra la continuation de ces grandes lignées familiales jusqu'au XXe siècle. Rendu fort par la vigueur de sa répression à Damas, Fouad Pacha peut maintenant travailler à isoler diplomatiquement les Français. Avec les Britanniques, il se pose en protecteur des Druzes, principal obstacle à l'influence française. Dans une magnifique dépêche datée du 18 septembre 1860, l'ambassadeur de France à Constantinople, La Valette, analyse les difficiles problèmes de la situation présente et des dilemmes qu'elle pose à la politique française. Il montre d'abord l'impuissance de l'État ottoman, paralysé en particulier par le manque de moyens financiers et, de façon générale, par la décadence de l'élément musulman. Je cite. « Telle est la situation de la Turquie au moment où l'élément chrétien s'agite, paraît d'autant plus fort de ses faiblesses et fait appel à l'Europe, tandis que les complices des massacres de Syrie ôtent à l'Occident ses dernières sympathies en faisant évanouir ses dernières illusions. Cette situation ne peut évidemment durer et, pourtant, on est réduit à souhaiter que la domination musulmane, si impossible qu'elle soit, puisse se prolonger encore. Les chrétiens d'Orient, par leur abaissement séculaire, par leur division politique et religieuse, sont mal préparés à recueillir la succession qui semble s'ouvrir. L'emprise de possession serait pour la Turquie, pour eux-mêmes, le signal de véritables calamités. Je ne parle pas des cruelles représailles dont ils vengeraient 4 siècles d'oppression. Maître du pays, leur fanatisme religieux qui éclate jusque dans les sanctuaires de Jérusalem aurait désormais pour champ clos la Turquie tout entière. Abandonnés à eux-mêmes, tous se livreraient avec fureur à ces haines de religion et de race, d'autant plus vives qu'elles ont été plus contenues. Entre le régime ottoman qui n'est plus possible et la domination chrétienne qui ne l'est pas encore, on cherche en vain une transition acceptable. À quels appuis confier le soutien de cet empire qui tombe de décrépitude ? À qui donner la tutelle de ces populations si peu préparées à la vie politique à laquelle elles peuvent naître demain ? Doit-on soutenir un présent désespéré contre un avenir qui offre si peu de garanties encore ? Faut-il hâter cette agonie de l'islamisme dont les dernières convulsions feront couler à flot le sang des populations chrétiennes qui aspirent à le remplacer ? Ces dernières ont-elles bien la jeunesse et l'avenir que leur attribuent leurs apologistes ? Ne sont-elles pas restées au fond ce qu'elles étaient il y a 400 ans ? Ne recommencera-t-elle pas l'ennemi comme à chasser ces querelles d'un autre âge interrompues par la conquête ? Si les Ottomans ont mérité de disparaître, les chrétiens d'Orient sont-ils bien dignes de prendre leur place ? Sauront-ils mieux ce qu'ils doivent à la civilisation générale de cette Europe dont ils feront à leur tour partie ? Autant de questions que se posent avec amertume, sans pouvoir les résoudre, l'homme politique et le chrétien. Il est pénible assurément de douter de nos religionnaires au lendemain du jour où ils ont été si cruellement frappés. Mais quelle garantie avons-nous trouvée dans cette épreuve ? Quelle confiance pouvons-nous avoir au sortir de ces désastres où les victimes ont à peine lutté ? Des sympathies de race et de religion, une communauté d'origine et de souvenirs nous dispose à prononcer en leur faveur, mais lorsqu'on approfondit froidement la question, on revient au doute, on se retrouve plus inquiet et plus perplexe en face de ce problème qui se dresse devant l'Europe et l'effraie tellement qu'elle n'ose l'aborder. Y a-t-il sagesse, y a-t-il imprudence à reculer sans cesse devant la nécessité d'une solution ? Il y avait une belle écriture dans la diplomatie française du XIXe siècle et je pense que beaucoup de diplomates, encore aujourd'hui, se posent la question : y a-t-il sagesse, y a-t-il imprudence à reculer sans cesse devant la nécessité d'une solution ? Je vous remercie. Il y a plus de 20 ans, je me suis trouvé faire une conférence devant les amis de Napoléon III sur la politique de Napoléon III en Orient. Et j'avais comme président de séance M. Maurice Cos de Merville, un grand monsieur. Et évidemment, il a fait la reprise. Et il m'a dit, si je vous ai bien compris, Napoléon III, il avait des moyens bien supérieurs aux nôtres. Voilà la pratique politique. Et encore, c'était il y a 20 ans, donc la situation a encore empiré de ce côté-là. Donc, à la rentrée prochaine, maintenant.